le magazine des Nations Unies.
Les hommages de l'ONU à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'Organisation mondiale. Qui était Kofi Annan? Mad UN vous propose le portrait de celui qui aura été le premier secrétaire général des Nations Unies de l'Afrique subsaharienne. Processus électoral en RDC, l'absence du consensus autour de la machine à voter et du fichier électoral préoccupe la MONUSCO et les Nations Unies. La porte-parole de la mission onusienne l'a déclaré cette semaine à Kinshasa. Vous suivrez Florence Marchal dans cette édition. Le 19 août, c'était il y a exactement une semaine, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de l'aide humanitaire. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, est l'un des acteurs humanitaires de premier plan en RDC. Dans ce magazine, nous recevrons Claudine Mouchobécois pour parler du droit international humanitaire. Claudine Mouchobécois est conseillère juridique régionale en charge de l'Afrique. Bienvenue à tous.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est l'heure de votre magazine des Nations Unies. Je l'ai dit dans le sommaire, l'ancien secrétaire général de l'ONU, le Ghanéen Kofi Annan, s'est éteint le 18 août dernier à Berne en Suisse, à l'âge de 80 ans. Une vie au service de la paix, un apôtre de la paix, ou notre icône africaine et mondiale, les qualificatifs sont venus de partout dans le monde et au sein des Nations Unies pour rendre hommage au 7e secrétaire général de l'histoire de l'ONU. Le magazine des Nations Unies vous brosse les grandes lignes du portrait de l'illustre disparu dans ce condensé d'Honoré Missinga Kalala.
Kofi Annan voit le jour le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana, son pays. Détenteur de titres académiques dans plusieurs disciplines dont le droit, l'économie et les sciences de gestion, c'est en 1962 qu'il entre dans le système des Nations Unies comme fonctionnaire d'administration et du budget à l'Organisation mondiale de la santé OMS. Depuis, Kofi Annan passe successivement à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba en Éthiopie, à la force d'urgence des Nations Unies à Ismailia, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève, puis au siège de l'ONU à New York comme sous-secrétaire général à la gestion des ressources humaines et coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité entre 1987 et 1990. En 1993, il est promu sous-secrétaire général en charge du maintien de la paix. C'est le 1er janvier 1997 que Kofi Annan commence son premier mandat de secrétaire général de l'ONU. Le 29 juin 2001, sur recommandation du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale le reconduit pour un second mandat qu'il débute le 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2006. Après 7 brillantes carrières au sein des Nations Unies, Kofi Annan est nommé le 14 juin 2007 à la tête de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, un organisme financé par la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que la Fondation Rockefeller. En octobre de la même année, il devient ensuite président de la Fondation de soutien à l'Organisation mondiale contre la torture. Le 23 février 2012, il est nommé émissaire conjoint de l'ONU et la Ligue arabe sur la crise en Syrie. Cette longue et fructueuse carrière du 7e secrétaire général des Nations Unies est jonchée de nombreuses décorations et récompenses. Prix Nobel de la paix en 2001, prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe en 2007, prix du traité de Westphalie en 2008, grand officier de la Légion d'honneur en 2013, entre autres. Enfin, Kofi Annan est également l'auteur de plusieurs publications. C'est donc cet homme qui nous a quittés le samedi 18 août 2018 à Berne et que le monde et les Nations Unies pleurent.
Autre chose, l'absence du consensus autour de la machine à voter, du fichier électoral notamment, constitue une préoccupation de la MONUSCO et des Nations Unies. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce mercredi à Kinshasa la porte-parole de la mission onusienne en RDC au cours de la conférence de presse. Pour Florence Marchal, il est important de profiter de la volonté manifestée par toutes les parties prenantes d'aller aux élections lors des dépôts de candidature, de tout mettre en œuvre pour obtenir un consensus sur ces questions. Et selon elle, la MONUSCO est déterminée à poursuivre ses bons offices pour y parvenir. Les propos de Florence Marchal, recueillis ici par Honoré Missinga Kalala.
Il semble important de profiter de cet élan, de cette volonté de tous les partie prenante d'aller vers les élections prévues par la CENI le 23 décembre prochain pour pouvoir poursuivre le dialogue et pour pouvoir trouver un consensus sur ces questions. C'est vraiment la volonté de la mission. C'était également un moyen avec lequel la mission effectue son rôle de bons offices, aller dans ce sens, influer les uns et les autres afin de pouvoir donc trouver une solution. Il y a une dynamique qui a été créée actuellement avec le dépôt des candidatures. Il est important de bâtir sur cette dynamique pour trouver un consensus concernant ces désaccords, notamment sur la machine à voter et sur les listes électorales. Et une fois encore, nous restons déterminés à poursuivre notre mission de bons offices en vue d'arriver à un consensus sur cette question.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août de chaque année, mobilise encore les acteurs humanitaires opérant en République démocratique du Congo, au nombre desquels le Comité international de la Croix-Rouge, en CICR. En marge de cette journée, le MAGUEN a reçu Mme Claudine Mouchobekwa et les conseillères juridiques régionales en charge de l'Afrique centrale du CICR. Dans son entretien avec Odorimi Sengakalala, Claudine Mouchobekwa a parlé du droit international humanitaire. Suivez.
Madame Claudine Mouchobekwa, bonjour.
Bonjour monsieur.
Le CICR a une part active dans l'action humanitaire à travers le monde. On parle de plus en plus du droit international humanitaire. C'est quoi le droit international humanitaire?
Le droit international humanitaire est un ensemble de règles internationales qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il a deux buts. Il protège d'abord les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités, ainsi que certains biens affectés ou pouvant être affectés par les conflits armés, mais il limite aussi les choix des moyens et méthodes de guerre et d'en atténuer les effets.
Oui, c'est au profit de quelle catégorie de personnes précisément le droit international humanitaire est-il appliqué, madame?
Le droit international humanitaire s'applique au profit des personnes qui n'y participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités, notamment les blessés, les malades, les naufragés, les prisonniers de guerre, dont en fait il y a des règles détaillées qui régissent leurs conditions de détention. Il protège également les civils, c'est-à-dire toutes les personnes se trouvant dans un territoire occupé, les civils se trouvant aux mains d'une partie au conflit ou d'une puissance occupante et dont ils ne sont pas ressortissants, mais aussi les personnes déplacées, les réfugiés, les femmes, les enfants, les apatrides, les journalistes aussi, et prévoit notamment que ces personnes doivent recevoir de la nourriture, un abri, des soins médicaux et avoir surtout le droit d'échanger des messages avec leur famille. Il faut aussi noter que les représailles contre ces personnes protégées sont interdites par le droit international humanitaire.
Donc je comprends que le droit international humanitaire protège tout le monde, mais c'est dans quelles circonstances ce droit est-il appliqué?
Ce droit est appliqué uniquement en situation de conflit armé, que le conflit armé soit international ou non international. Il ne couvre pas les tensions internes ou les troubles intérieurs comme les actes de violence isolés ou sporadiques qui n'atteignent pas le seuil d'un conflit armé.
Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de l'application du droit international humanitaire?
Par exemple, aujourd'hui, à l'est de la RDC, vous savez qu'il y a un conflit armé, donc le droit international humanitaire s'applique. Et quand nous allons parler des actions justement de soutien du CICR, vous verrez comment nous soutenons justement l'État congolais à respecter les droits internationaux humanitaires, parce que justement l'article 1er commun aux conventions de Genève de 1949 oblige les États à respecter et à faire respecter le droit international humanitaire. Et le CICR apporte son soutien dans ce sens-là aussi.
Et j'imagine qu'il y a des mécanismes de protection de ce droit.
Je parlerai plutôt de mécanismes de mise en œuvre. Il est demandé aux États en temps de paix déjà de prendre des mesures préventives sur la mise en œuvre du droit international humanitaire. D'une part, à travers le développement de la législation nationale, et d'autre part, à travers la formation et la sensibilisation, notamment par la formation des militaires, l'enseignement universitaire, la sensibilisation de la population et du monde politique aussi, parce que ce sont des décideurs. Mais il faut noter que la responsabilité première de la mise en œuvre du droit international humanitaire incombe toujours aux États, et le CICR vient en soutien.
Alors, quel rôle finalement le CICR joue-t-il dans l'application du droit international humanitaire, notamment en termes de bilan de ces 5 dernières années en RDC?
Ces 5 dernières années, le CICR a joué un rôle très important depuis d'ailleurs que le CICR est là. Nous soutenons la RDC dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, notamment sur le plan de la législation. Par exemple, nous avons participé à la rédaction du projet de loi portant utilisation et protection de l'emblème. Vous savez qu'il existe des signes distinctifs qui protègent l'accès humanitaire, les agents humanitaires. C'est la croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge. Et ce projet de loi est en attente d'adoption au Parlement. Nous avons soutenu la RDC, évidemment, dans la sensibilisation sur la ratification des conventions pertinentes dans les traités sur le commerce des armes, la convention de Kinshasa sur les armes légères de petit calibre. Nous soutenons l'enseignement du droit international humanitaire. D'ailleurs, au mois d'octobre, nous aurons le concours national de plaidoirie et l'équipe gagnante représentera la RDC au concours régional francophone organisé toujours par le CICR. Nous assurons aussi la formation des militaires. Nous soutenons la formation des militaires. Il existe une collaboration très bonne entre les FARDC et les CICR et donc nous intervenons dans les académies militaires. Alors, nous intervenons aussi dans la formation de la police en droit international de droit de l'homme, notamment en ce qui concerne l'usage de la force et l'utilisation des armes à feu dans des situations de maintien de l'ordre.
Donc, si je comprends bien, le CICR est plus dans le plaidoyer et la sensibilisation.
Oui, nous sommes dans la sensibilisation, mais aussi nous sommes dans des actions. Nous intervenons dans des prisons, nous intervenons aussi auprès du public pour la sensibilisation au droit international humanitaire, évidemment avec le soutien de la Croix-Rouge de la RDC, qui est aussi un membre du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge comme nous, et à qui nous apportons le soutien et nous joignons à elle justement pour toutes les activités de sensibilisation du grand public.
Je reviens à l'application du droit humanitaire international, madame. Sur le terrain, par exemple, un combattant blessé a droit à une certaine protection.
Bien sûr, le combattant blessé, il participe aux hostilités. Il participait, maintenant il est blessé, il est à terre, il a droit à la protection. Et de manière plus spécifique, il est interdit de tuer ou de blesser un ennemi qui se rend ou qui est incapable de se défendre. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en face d'un ennemi qui est blessé, qui n'est plus en mesure de se défendre?
Quand on est en face d'un ennemi qui est blessé et qui est incapable de se défendre, on doit le recueillir et le soigner, même s'il tombe entre les mains de la partie adverse. La partie adverse a le devoir, au terme de règles du droit international humanitaire, de le recueillir et de le soigner.
Madame, vous avez un dernier mot, une recommandation par rapport à l'application du droit international humanitaire?
Une recommandation par rapport à l'application du droit international humanitaire, c'est d'exhorter le gouvernement de la RDC, les autorités nationales, à mettre en œuvre le droit international humanitaire et principalement à adopter ce projet de loi sur l'utilisation et la protection de l'emblème. Nous avons l'habitude de dire, nous, au mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, que nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes. Notre seule arme, c'est l'emblème. C'est cet emblème qui nous protège. Parce que tous les belligérants savent que les gens qui arborent cet emblème, les biens qui arborent cet emblème, doivent être protégés en cas de conflit armé, même en temps de paix. Et donc, nous exhortons les autorités nationales à se pencher sur ce projet qui est en attente d'adoption au Parlement.
Merci, Madame Claudine Moshiboka.
Merci, Monsieur Honoré.
Page de nouvelles en plus bref s'ouvre par cette information. Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, a été désigné envoyé spécial de la SADC en RDC en Afrique centrale. Il aura pour mission de suivre de près le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le successeur de Mandela a eu, par le passé, entre 2002 et 2003, à accompagner les acteurs politiques et sociaux congolais autour du dialogue intercongolais. Et ce dialogue a débouché sur la mise sur pied du gouvernement de transition de la formule 1+4 entre 2003 et 2006. L'UFR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, préoccupé par la situation humanitaire du territoire de Djougou en Ituri. Une mission du UFR dans ce territoire a trouvé sur place qu'il existe dans 113 villages des besoins humanitaires qui peuvent freiner le retour et la réintégration des déplacés. En effet, la mission du UFR, qui a travaillé avec un TEROS, le partenaire de cette agence onusienne en Ituri, a trouvé plus de 16 000 maisons détruites, soit 39% des abris de la région. En dehors des abris, les besoins les plus forts constatés par la délégation sont les besoins de nourriture, des médicaments et des articles de ménage. Loin de croiser les bras, l'UACR fait un effort pour mobiliser le maximum de ressources disponibles pour répondre à l'urgence et améliorer la situation de la population déplacée retournée à Djougou. cette nouvelle, enfin, le volet droits de l'homme, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNDH, a documenté au mois de juillet 2018 515 violations de droits de l'homme contre 458 pour le mois précédent. Le BCNUDH précise que 84% de ces violations et atteintes aux droits de l'homme ont été commises dans les provinces affectées par les conflits et entraîné la mort d'au moins 119 personnes civiles, dont 16 femmes. Le bureau conjoint note aussi que 53 des violations et atteintes aux droits de l'homme commises pendant cette période sont liées aux restrictions de l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce dimanche, c'est Jean-Marie Mangobé, secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Dans une semaine, vous le savez, ce sera la rentrée scolaire 2018-2019. Et mardi dernier, avec son partenaire l'UNICEF et le ministère de tutelle, a lancé à Kinshasa la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Dans son entretien, le secrétaire général Mangobé met en exergue l'appui de l'UNICEF au gouvernement pour la réussite de cette campagne. Suivez l'interview réalisée par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Jean-Marie Mangobé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général à l'EPSP. Vous venez, par l'entremise du ministre de l'EPSP, de lancer la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Il faudra réussir le pari de faire inscrire et maintenir cette année au moins 2 millions d'enfants à l'école. Alors, comment comptez-vous relever ce défi et l'engagement du gouvernement?
Bon, vous venez de vous rendre compte, nous venons d'assister au lancement. C'est le gouvernement de la République, avec son partenaire l'UNICEF, qui vient de procéder au lancement de la campagne d'inscription des élèves en première année primaire, des élèves de 6 ans et de 7 ans. C'est une activité que nous organisons depuis près de 10 ans aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre d'enfants qui avaient atteint l'âge de scolarité, mais qui continuaient à rester à la maison. Le gouvernement a réfléchi sur la question avec l'UNICEF, et des dispositions ont été arrêtées pour que, à la veille de la rentrée scolaire, une campagne de sensibilisation soit lancée en direction des parents d'élèves, en direction des écoles et des chefs d'établissement scolaire, pour que l'inscription des enfants de 6 à 7 ans dans les classes de primaire soit facilité.
Oui, après la campagne, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que 2 millions d'enfants soient inscrits?
Mais la campagne en elle-même constitue une stratégie. Une stratégie pour que ces enfants-là viennent à l'école. Vous avez vu que l'UNICEF a mis à la disposition du gouvernement des kits scolaires. On donne des cartables, des cahiers, on donne des stylos aux enfants pour faciliter, pour enlever ce prétexte-là. Ôter le prétexte des parents de dire que non, il n'y a pas de moyens pour pouvoir acquérir les fournitures scolaires, ces enfants vont attendre à la maison et tout ça. Non, l'UNICEF a mis les moyens.
Il y a certes des défis à relever au cours de cette année scolaire, parmi lesquels les infrastructures scolaires. Il y a aussi la gratuité de l'enseignement qui n'est pas encore effective, et vous le savez. Le premier ministre de l'époque, donc je veux parler de Matata Mponyo, avait lancé une opération de la construction des 1000 écoles. Est-ce que vous pouvez nous faire aujourd'hui l'état des lieux?
Vous avez suivi le mot du représentant de l'UNICEF au Congo. Le représentant de l'UNICEF est tout à fait d'accord. Il s'est réjoui de constater qu'il y a de très grandes améliorations dans le système. Et dans cette amélioration, il n'y a pas que l'aspect élève. Il y a aussi l'aspect infrastructure. Vous-même, en tant que média, vous êtes témoin de cette évolution. Nous avons construit près de 99% des écoles prévues. Si ma mémoire ne me trahit pas, il y a 4 ou 5 écoles qui posent encore des problèmes. Tout le monde voit ça. Il n'y a pas un seul territoire qui va dire qu'il n'a pas bénéficié d'au moins une école. Et c'est une réalité.
Mais il y a un autre défi, c'est que les enseignants aspirent cette année à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il y a beaucoup de non-payés dans votre secteur. Il y a aussi des nouvelles unités. Qu'est-ce que ces derniers peuvent attendre de vous et que peut faire le gouvernement?
Je crois que vous le savez, vous êtes témoin vous-même de l'effort du gouvernement en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc, le gouvernement, chaque année, en ce qui concerne particulièrement les enseignants non payés, prend en charge un certain nombre d'enseignants. Et je profite de votre micro pour annoncer aux enseignants, à l'opinion, que le gouvernement prévoit de prendre en charge, à la paye du mois d'octobre, 7500 enseignants NP. Donc, la prise en charge des NP est une question qui trouve sa solution de manière progressive.
progressive. L'État n'a pas les moyens de pouvoir prendre en charge parce qu'ils sont 145 000. Vous voyez, prendre 145 000 enseignants, du coup, il faut un budget consistant. Les moyens ne le permettent pas. Chaque année, l'État prend en charge un certain nombre d'enseignants. Et pour cette année, donc à la paie du mois d'octobre, 7 500 enseignants non payés vont bénéficier de leur salaire.
Oui, pour terminer, monsieur le secrétaire général, le ministre a évoqué dans son allocution la disparité dans le cadre de la scolarisation des enfants entre l'intérieur et la capitale. Comment est-ce que vous, cette année, vous allez vous y prendre pour essayer de combler ce vide, cette disparité?
Je parlais de la stratégie du gouvernement. Vous voyez, la campagne ici que nous venons de lancer, c'est une campagne qui va atteindre, qui va couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, si la campagne est bien menée, tous les parents seront atteints et tous les enfants en âge de scolarité seront atteints aussi. Et donc, ils vont venir à l'école. Donc, cette stratégie va certainement nous permettre de réduire, pas supprimer, non, réduire les disparités dont a parlé son Excellence, Monsieur le Ministre, entre les provinces, donc d'une province à une autre, et même à l'intérieur des provinces. Il y a des zones où ça marche, il y a des zones où ça marche moins. Donc, la stratégie, comme on va atteindre tout le monde, il est sûr que ça va contribuer à la résolution de cette question des disparités.
Oui, Jean-Marie Mangobé, je rappelle que vous êtes secrétaire général à la PSP. Radio Capi vous remercie.
Merci beaucoup.
Une cinquantaine de représentants des organisations non gouvernementales, des droits de l'homme, de proximité, membres du bureau de protection de Kinshasa, ont préparé un atelier de renforcement des capacités. Un atelier organisé par le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNDH. Honoré Missenga Kalala a suivi cette séance de formation qui s'est tenue du 22 au 23 août dans les installations de la MONUSCO à Kinshasa. Il a recueilli les impressions et les attentes de quelques participants et participantes. Suivez.
Francine Bala, des actions pour la restauration de la paix et la justice à RPJ. Les attentes sont entre autres de nous rappeler encore ce qui est essentiel sur ce qui concerne la couverture ou le monitoring des manifestations publiques. Le premier jour, nous avons vu comment, lorsque vous êtes face à un procès dans des cours et tribunaux, si toutes les voies de recours en interne n'ont pas donné une solution satisfaisante, comment faire les recours au niveau international. Tout ça nous a donné encore une forte capacité à pouvoir défendre les droits de l'homme.
Angèle Bungungu, je suis coordinatrice de l'association Force des Femmes pour la Promotion et la Protection des Ressources Naturelles et Case des Droits de l'Homme. Je suis très contente parce que souvent on faisait des choses de notre façon. Maintenant, je viens d'apprendre comment établir un plan de sécurité, comment saisir aussi les instances internationales.
Il y avait une loi qui a été préparée pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, qui n'est pas mise en œuvre jusqu'à ce jour. Donc notre demande est que les bureaux conjoints aux Nations Unies des droits de l'homme coopèrent avec l'État congolais, que l'État congolais nous signe la loi qui va nous mettre en sécurité. Merci aux bureaux conjoints des Nations Unies des droits de l'homme pour tout ce qu'il fait pour nous.
Madame Bénédicte Maloumba, lauréate du compte de la CDDV. Qu'on soit éveillé pour le code de finir. D'abord, pour cette formation, j'ai vraiment aimé parce que ça a amélioré nos capacités. Mais plus tard, on voudrait que ce genre de formation puisse être vraiment un peu régulière. Nous avons retenu comment est-ce que nous devons intervenir. D'abord, comprendre ce qu'est le droit de l'homme et puis ce que nous, comme étant de personnes qui défendent ces droits, devons intervenir dans des opérations.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Comment expliquer encore la présence des ex-rebelles sud-soudanais au Nord Kivu alors que leur leader a signé un accord de paix avec le gouvernement? Écoutez cette question posée mercredi dernier à la conférence des Nations Unies et bien entendu la réponse de la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal.
JT Kabumba, je travaille pour Congo Synthèse et Afrique Média. Je reviens sur la question des ex-rebelles sud-soudanais qui restent toujours cantonnés dans les camps de Monigi, dans les territoires de Nyiragongo. Madame savait très bien qu'il y a paix que l'ancien rebelle Riek Maréchal a signé un accord de paix avec le président sud-soudanais, un accord de paix par rapport à tout ce qui s'est passé dans ce pays. Maintenant, on ne sait pas parce que tous ces rebelles restent cantonnés dans le cadre de Moniki et ils sont en train de piller partout dans le territoire de Nyiragongo et ça inquiète beaucoup la population de ces coins. Qu'est-ce que la MONUSCO pense par rapport à ces rebelles? Parce que on sait que leur leader rebelle a signé un accord de paix. Merci.
Effectivement, il reste des ex-combattants soudanais ici dans le Nord Kivu. Je voudrais quand même préciser que le service de la lutte anti-mine a détruit et éliminé les armes et les munitions remises par ces ex-combattants. Donc les combattants qui se trouvent à Munigi sont des combattants désarmés, premièrement. Et ensuite, beaucoup d'entre eux sont déjà partis vers des pays tiers qui leur ont délivré des visas. Et la MONUSCO poursuit ses consultations avec plusieurs ambassades afin de trouver des solutions pour ceux qui sont toujours sous sa garde à Goma. Donc oui, nous sommes d'accord avec vous. Il est primordial de trouver une solution rapide pour les personnes qui sont toujours présentes à Goma. Et c'est un travail que nous faisons avec les ambassades qui sont prêtes à leur apporter un visa. C'est une situation qui est également suivie par le comité d'appui technique de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour l'RDC, le fameux accord d'Addis Abeba. Donc c'est quelque chose que nous suivons et comme vous, nous espérons que très prochainement, tous les ex-combattants soudanais auront pu quitter à la fois le camp de la MONUSCO et la RDC.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Donc, je m'appelle Georgine Koutankokori, je suis mariée et mère de 4 enfants. Dire 4 me fait toujours mal car autour de moi, il y a des enfants qui m'aiment bien et me prennent pour maman. Pour ma formation, je suis licenciée en pédagogie appliquée, option lettres et civilisations anglaises. Mon parcours professionnel, étant pédagogue, j'ai eu la chance de travailler dans mon domaine d'enseignement, dans des grands centres de langues de la RDC, dont KLC, Kinshasa Language Consultant et Cali, Congo American Language Institute. J'ai eu la chance de travailler avec mes profs et qui ont beaucoup contribué à mon développement de la carrière. Cette riche expérience m'a permis d'être consultante en formation à la MONUSCO depuis 2006. En tant que consultante, j'étais sollicitée dans d'autres grands bureaux et c'est en 2016 que j'ai finalement accepté un contrat fixe-term comme officier en formation. Les tâches quotidiennes, je n'ai pas vraiment de journée typique. Comme mon titre l'indique, je ne suis pas là seulement à recevoir des ordres, mais surtout de penser comment améliorer et contribuer dans le travail de l'équipe. Donc, après l'analyse des besoins en formation des staff de la MONUSCO, je m'occupe du design, du développement, de la facilitation des différents cours. Je coordonne les activités de tous les professeurs de cours de langue dans tous les secteurs de la MONUSCO et aussi décide sur quelles formations livrer à Kinshasa. Je reçois aussi les clients et les oriente pour ce qui concerne nos formations, notamment les cours internes, externes et obligatoires, et aussi en ligne. Mon temps libre, premièrement, je programme mes activités ménagères. Je conçois des horaires qui sont implémentés par mes collègues à la maison en mon absence. Donc, ce qu'on va manger pendant la semaine, quoi faire avec la famille, quel achat, qui visiter, etc. Deuxièmement, je cause beaucoup avec les enfants car je crois qu'ils ne peuvent profiter de moi au maximum que quand il n'y a pas de contraintes. J'en profite aussi pour les enseigner ce que je peux et discuter sur leurs différents livres que nous avons lus et chantons souvent ensemble. Et puis, je contemple la nature, les arbres, les animaux, la société. J'aime aussi écouter les gens. N'importe qui peut m'inspirer. Je suis très simple, positive, pratique, mais conservatrice et deux fois opposante, ce qui peut mettre mal à l'aise mes proches. Enfin, j'utilise mon temps pour lire les livres de mes auteurs préférés, dont Stephen Covey, Hill, Canfield et beaucoup d'autres qui sont devenus mes meilleurs amis. J'aime la musique slow ou douce, le sport, j'aime le foot, et mon équipe préférée c'est le SMP et le Real. À la nourriture, je mange tout avec appétit. Parmi mes projets d'avenir, je rêve avoir du temps avec des petits-enfants, des jeunes filles et garçons pour leur transmettre des valeurs qui peuvent les aider à affronter la vie avec confiance. Ne pas toujours envier les autres, faire du bien, se faire accepter. Bien faire cela, c'est dans l'obligation de partager et de restituer ce qu'on a reçu des autres. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent sans éducation de base, sans amour, sans protection affective. Et pourtant, tout ça ne demande pas toujours beaucoup d'argent, mais de la responsabilité de la part de certaines personnes qui ne les font pas et qui malheureusement ne peuvent plus arrêter les conséquences qui en découlent. Ce sont des petites choses, mais qui gâchent notre vie. C'est vrai que je n'atteindrai pas beaucoup, mais s'il y a ne fût-ce qu'une personne qui peut en profiter, c'est mieux que zéro. Oh, je suis confiante et je sais que c'est possible car je l'ai déjà expérimenté avec deux filles et plus de cinq garçons. J'en profite pour saluer les auditeurs de la radio CAPI et surtout j'aime beaucoup la radio par son professionnalisme. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio CAPI.
Notez que le 27 août à New York, au siège des Nations Unies, ce sera la présentation de la situation de la RDC au Conseil de sécurité. Et le 30 août, c'est la journée internationale des victimes de disparitions forcées. Voilà, c'est à la fin de votre magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Bob Landou. Honoré Missenga Kalala était à la coordination, au reportage et à la réalisation sous la supervision de Martin Sibou-Jangwe. On vous dit à très bientôt sur Radio CAPI. Ciao.